Tempo, épisode 26. On y va. Vous êtes dans le Tempo, bienvenue dans le podcast des passionnés de musique. Je suis avec mon gars Daz, effectivement, comme à chaque épisode. Comment ça va?
Ça va très très bien.
Ouais.
Ouais.
Pas de petite fatigue, pas de...
Non, ça va, la vie de saltimbanque.
La vie de saltimbanque.
On s'adapte.
Moi, je t'avoue que c'est un peu la fatigue de mon côté. Oh. Mais, je suis refait quand même.
Ah.
Je suis refait parce qu'on va aborder une thématique très intéressante aujourd'hui, et avec un invité de grande qualité en plus. Laurent de Wild est avec nous. Comment ça va, Laurent? Merci beaucoup d'être dans cette émission.
Bah, ça va bien. Très content d'être là.
On te reçoit parce que on a envie de parler d'une thématique qui mêle à la fois l'artistique et la technique. De se demander un peu comment ça fonctionne, l'interaction des deux. Et notamment, bah, toi, tu as une carrière, tu t'es beaucoup intéressé à la technologie. Tu es pianiste à la base, pianiste de jazz. Tu as une bonne dizaine d'albums à ton actif en solo, au moins autant en ayant apparu, tu apparais en tant que musicien sur d'autres albums aussi. Oui, c'est quoi à peu près, combien d'albums tu dirais solo?
Solo, c'est-à-dire sous mon nom, quoi, ouais. Avec mes formations. Plus du côté de 15-16, je sais pas. J'ai arrêté de compter. Et puis des collaborations, c'est plus fréquent. Ouais.
Donc d'une part, tu es pianiste de jazz, formé aux États-Unis. Tu es même passé par l'école normale supérieure en philosophie?
Ouais, enfin avant.
Avant ça?
Ouais.
Tu t'intéresses à plein de trucs, tu animes une émission sur Radio Classique aussi autour du jazz.
Absolutely.
Et puis tu écris des bouquins.
Yep.
Tu as un bouquin sur Monk, et puis surtout un bouquin qui nous intéresse particulièrement avec la thématique d'aujourd'hui, c'est Les Fous du Son. Alors si vous connaissez pas Les Fous du Son de Laurent de Wild, achetez ce bouquin, lisez-le ou louez-le, allez à la bibliothèque, je sais pas.
Moi je l'ai acheté.
Tu l'as acheté? Moi, j'ai bien fait, Daz. Moi aussi. Non, c'est un bouquin absolument passionnant qui revient justement sur ces grands inventeurs qui ont utilisé l'électricité pour créer de nouveaux instruments. Et justement, c'est vraiment au centre un peu de notre thématique d'aujourd'hui. C'est comment ça s'articule tout ça? Est-ce que l'artistique s'oppose forcément à la technique? Et en réalité, je pense qu'on va voir, et ton bouquin d'ailleurs nous le rappelle, c'est que c'est souvent mêlé tout ça. C'est que la technique, elle sert souvent l'artistique en réalité.
Et ouais. C'est très... C'est très étonnant parce que, en fait, toutes les recherches sur le son, pendant très longtemps, sont orientées dans deux domaines.
Ouais.
Analyse de la voix, forcément, la voix humaine. Et puis, analyse de ce qui sort d'un clavier. Parce qu'au moment où on commence à utiliser un clavier, on se trouve obligé de définir à l'avance la hauteur de chaque note du clavier. Mmh. Ça s'appelle le tempérament, comment accorder un piano comme il faut. Alors, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a 5000 façons d'accorder un piano. Le problème étant que accorder un piano juste, c'est impossible. Parce que si on utilise juste une table de fréquences et qu'on multiplie les fréquences par deux en fonction des octaves, et ben, en fait, il se passe un truc qui est très emmerdant et que Pythagore avait découvert au 6e siècle avant Jésus-Christ et avait écrit un petit mot pour ses descendants en disant « Démerdez-vous les gars, ça marchera jamais » parce que, en fait, quand on multiplie les fréquences, on pense que ça tombe juste, mais en fait, l'oreille humaine fonctionne pas comme ça. Okay. Et il faut un peu truander sur les hauteurs de fréquence. Et ça, donc, ça, c'est un débat scientifique avec des papes qui excommunient des gens. Et puis, t'as Descartes.
Game of Thrones, le truc, quoi.
Ah,
les têtes sont coupées.
Il y a des duels historiques. Et tout philosophe, pas philosophe, mais scientifique, ou même philosophe, Descartes, Newton, chacun doit se prononcer sur comment on accorde un piano, quoi.
Okay. Ah ouais.
Les hauteurs de son. Parce que justement, le clavier est une invention démoniaque qu'on ne trouve chez nous les occidentaux, quoi. Hein, tout ce qui est instrument avant, à cordes, à percussion, tout ça on trouve
partout,
même instrumentarium partout sur la surface du globe, mais le piano là avec les demi-tons coupés en tranches comme ça, là ça c'est spécialité de chez nous, quoi. Vraiment.
Ce que tu nous dis là, c'est que la question de la technique, de comment on fait les instruments, de comment ils fonctionnent, etc., elle se pose depuis longtemps.
Exactement. Et alors, en plus, là où ça devient intéressant, c'est que, justement, le clavier, avec ses hauteurs de fréquence, tout ça, c'est une espèce de pont musical vers la technologie, quoi. Mmh. C'est vraiment les pianistes et les scientifiques, ils se comprennent bien, quoi. Mmh. Ils parlent, et donc et ça passe par le clavier. Mais ce qui est absolument bouleversant, c'est de se rendre compte que toute l'analyse du son, alors il y a la voix, comme je disais tout à l'heure, mais pour tout le reste, c'est la musique qui va servir un petit peu de guide dans les questionnements sur le son. Et le seul guide, c'est beau ou c'est moche.
Ok.
C'est-à-dire, les trucs qui sont moches, on n'étudie pas. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est comme si on étudiait des insectes, et puis on dit, oh, celui-là avec les ailes, là, toutes noires.
Pas terrible. Moches et tout.
Ouais, on oublie, aucun intérêt. Et en fait, c'est une sorte de questionnement qui dure très longtemps dans l'histoire de la science. Genre, oh, c'est trop beau. Pourquoi c'est trop beau? Je veux comprendre pourquoi c'est trop beau. Et là, effectivement, on commence à démonter Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui établit un rapport entre la hauteur des notes et la longueur des cordes, les fréquences doublées, les cordes diminuées de moitié, tout ça, t'as des rapports mathématiques très simples, très... Sauf que ça continue jusqu'à très tard dans l'histoire des sciences, du son. C'est la musique, c'est quand c'est joli qu'on essaie de comprendre pourquoi. Ouais. Et on essaie de comprendre avec un clavier, parce que le clavier, lui, justement, il dit, ouais, cette note-là, elle doit être là, elle doit être, le la doit être à 440 Hz. Je dis 440, mais aujourd'hui, c'est plutôt 442. Mm-hmm. Et au début du siècle, on était plutôt plus près de 430 Hz.
Ah, et donc ça change en permanence, en
absolument.
Fait, en fonction des goûts de la société.
Exactement, ouais. Et des pratiques... Norme, ouais. Oui, des pratiques aussi. C'est-à-dire plus les instruments sont accordés haut, plus ils portent. Mmh. Et effectivement, ça permet d'avoir des auditoriums de 2000 personnes en acoustique entre guillemets. L'orchestre qui est bien remonté, puis ça tabasse. Ouais. Et j'ai une histoire d'un contrebassiste de jazz qui est décédé il y a pas longtemps, qui s'appelait George Braz, qui avait été voir un violoniste célèbre dont je tairai le nom. Et qui lui est donc lui contrebassiste de jazz tchèque, très très bon à l'archet, mais surtout vraiment plutôt pizzicato. Il va voir la grande star du violon. Il dit ouais, mais quand même tu joues un peu faux, non hein? Et le mec il dit bien sûr que je joue faux, motherfucker. Mais comment tu crois que je peux atteindre la Lega au 37e rang là? Ouais. C'est en jouant un peu plus aigu quoi. C'est comme ça que je les attrape quoi. Donc c'est vrai que le diapason général.
Oui, change en fonction de l'endroit où
des modes de consommation, ouais. En fait.
Alors, il faut que... On va essayer d'organiser un peu ce podcast. Là, on voit tout de suite ta passion, et notamment le fait que ça interroge depuis longtemps la question de comment fonctionne le son, même de manière générale, que ce soit la voix, les instruments, tu le disais. Commençons, si tu veux bien, avec une première partie. On va déjà se questionner sur ton intérêt, toi, pour la technologie, et notamment faire le parallèle avec ta carrière artistique, toi, en tant que pianiste de jazz. Est-ce que... Il y a un album dans ta carrière qui marque quand même une forme de tournant, c'est Time for Change.
Le bien nommé.
En 2000, le bien nommé en effet, où tu commences à expérimenter avec des sons électroniques, et même moi je trouve qu'il y a des sonorités hip-hop dans cet album, ça m'a fait penser, je te disais ça tout à l'heure, jazz, à du Buckshot le Funk, je sais pas si tu vois.
Et, bien entendu.
J'ai trouvé ce type d'inspiration là-dedans, quoi. Est-ce que ton intérêt pour la technologie, toi, en tant que jazzeux, il apparaît à ce moment-là en disant « Comment je renouvelle ma pratique ? Est-ce que c'était déjà bien avant ? Est-ce que les fous du son, déjà, c'était un peu, tu vois, dans ta tête avant ça ? Est-ce que ça arrive après ?»
Écoute, moi, je suis né en 1960. Donc, quand j'ai 13-14 ans, commence à apparaître dans les magasins de musique des instruments qui s'appellent Mini Moog, Fender Rhodes, les premiers synthés Yamaha, des trucs comme ça, les Farfisa, avec des boîtes à rythme, Samba, Bossa Nova, Waltz, Swing, le Swing, je te raconte pas.
Tu dois changer la viande.
Et il y avait le truc, le Farfisa, j'avais un Farfisa Matador, alors tu pouvais appuyer sur deux rythmes en même temps, il supportait ça, et il te jouait la combinaison des deux rythmes. C'était assez dense, mais assez excitant en même temps. Basse, arpégé et tout, bref. Donc, ça a été tout mon émerveillement musical de môme, quoi. J'avais un piano chez moi, j'en jouais en autodidacte. Et puis, il n'y avait pas YouTube à l'époque, hein. Il fallait se trimballer en mobylette jusqu'à la grande halle de la Villette, qui à l'époque était vraiment une grande halle, qui sonnait d'ailleurs épouvantablement mal. Et puis, j'allais voir Yes, Genesis, Earth, Wind and Fire, Emerson, Lake and Palmer, etc., quoi. Donc, c'était ma façon de vivre la musique au quotidien. Le jazz avait été un peu massacré par le free jazz. La fin des années 60 avait eu un effet un peu terre brûlée sur les clubs, sur le public, tout ça. Et c'est au début des années 80.
Une forme de scission un peu de...
Ouais, je sais pas. C'est-à-dire que le jazz était devenu un truc assez violent, assez agressif. C'est là qu'il a commencé un peu à se séparer du grand public. C'était plus du jazz pour danser, c'était vraiment du jazz pour écouter. Puis en plus, il y avait des revendications, c'était compliqué. C'était un jazz un peu prise de tête. D'ailleurs, c'est resté un peu comme une des deux images du jazz en France. Il y a le jazz cassoulet, genre c'est sympa et tout pour guincher. Et puis, il y a jazz prise de tête où on comprend rien et on a l'impression d'être pris pour un con. Et
tu t'inscris comment dans ces deux courants-là? Du coup, c'est un coup de cassoulet, un coup de prise de tête, c'est quoi le...
Exactement, moi c'est cassoulet, prise de tête.
Ok, très bien.
Donc, tout ça pour dire que j'ai, à l'époque, cette espèce de vide ou d'hésitation de jazz, et d'ailleurs, dans toute l'histoire des grands jazzmen, c'est une époque où on les retrouve derrière des chanteuses, où ils font plus vraiment des trucs à eux, et en France aussi, c'est le mec qui a enregistré avec Miles Davis Ascenseur pour l'échafaud, il était pianiste de Claude François. Fallait bien gagner sa croûte, et puis le jazz, ça marchait pas très bien à cette époque. Donc, ce vide, il était rempli par Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, les Headhunters, tout ce qui était électrique, monstrueux, le joueur de synthé de comment il s'appelle, Larry Coryell, il avait un groupe qui s'appelait Eleventh House, et je me rappelle, il s'appelait Mike Mandel, il avait des synthés, et il était aveugle.
Yes.
Et il jouait c'est un synthé que j'avais eu l'occasion de manipuler une fois dans un magasin. C'était l'ARP Odyssey, quoi.
Ouais, bah.
Et l'ARP Odyssey, c'est les petits picots comme ça qui montent et qui descendent. Ouais. Et je connaissais par cœur le disque et je vais les voir et j'entends le break qui doit arriver et je sais qu'il doit changer de son. Juste, il y a un petit roulement, tu vois, une petite descente.
Ouais.
Et puis il doit faire un autre son. Et là, je l'ai vu, quoi. Le mec aveugle et tout, il reprogramme le son et tout, et il fait le son qui n'a rien à voir. Donc moi, c'était ça que je voyais, ouais. Comment dire, dans ma consommation musicale. Donc, j'avais envie d'en savoir plus.
Ouais.
Après ça, je suis parti à New York étudier jazz. J'ai le même âge que Wynton Marsalis, la classique Revolution, Back to the Standards, tout ce qui est électrique, c'est de la merde,
ouais.
Voilà, blablabla. Nous, on apprend la vraie musique, voilà. Et c'est là que le jazz a commencé à se développer dans les conservatoires. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste, c'était une phase de son histoire.
Mm-hmm.
Et donc, comment dire, toute l'électricité, tout ça, c'est passé en dessous.
Ouais. Il y a carrément eu un dénigrement, alors, du coup.
C'est-à-dire, moi, j'étais à New York. Moi, j'ai appris la musique à New York, le jazz à New York, dans les années 80. Donc, c'est le début du midi.
Ouais.
Mais j'habitais au dernier étage d'un immeuble où il y avait un studio d'enregistrement assez rudimentaire au quatrième étage. Et donc, rapidement, je me suis retrouvé à faire de la programmation au midi. Mais pour ça, il fallait des tonnes de synthé. Ouais. Et à l'époque, si tu voulais avoir un petit reverb, si tu voulais avoir un petit délai, fallait aller dans un vrai studio.
Ouais.
Et pour revenir à ta question, l'an 2000...
C'était les premiers rapports un peu à la technologie, ça? Tu lui parles du midi, etc.
Yes. Ouais. Bah ouais. Juste, du coup, c'est marrant parce que je l'ai vraiment appris quand ça arrivait, quoi.
Ouais. Et tout ça inspiré par les groupes dont tu parlais, que tu voyais au hall de la vie, au hall, etc.
Exactement. Et également par ce studio où il y avait ce mec qui programmait des sons pour Madonna. Et donc, je faisais l'assistant parfois. Alors, il y avait, bien entendu, le studio, là, il était pété de synthé, des Oberheim et tout. Et c'était des Roland, des Korg, des Yamaha. Tout ça était interconnecté donc en MIDI. Mmh. Et donc le gars, il faisait des sons pour Madonna. Et il avait, on était dans le MIDI, mais il y avait très peu de synthé qui avait des mémoires. Donc en fait, on faisait les sons comme ça à la main, quoi. Mmh. Et le mec, il sortait des sons monstrueux. Alors j'essayais de regarder comme ça. Et puis à chaque fois quand il sortait du studio, il mettait tous les boutons à zéro.
Non, non, non.
Tous les potards.
Dégueulasse.
Ouais, pour pas qu'on lui pique les sons, quoi. Donc, quand on arrive en l'an 2000, je suis dans cet état de frustration où je pratique le MIDI, mais le MIDI ne vaut que par le nombre de synthés que t'as.
Peut-être
ça.
Juste parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui maîtrisent un peu moins le jargon technique. Le MIDI, c'est un protocole, une forme de langage.
Musical Interface of Digital Instruments.
Ok. Rapidement, en quoi ça consiste?
Eh ben, c'est-à-dire que ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a une approche numérique dans la synthèse du son. Et donc, c'est des 1 et 0. Et moi, je peux donner à n'importe quel synthé l'ordre de jouer numériquement, l'ordre numérique de jouer un Fa avec une dynamique, enfin une vélocité, une durée, un aftertouch, etc. Donc,
pour faire simple, oui, le MIDI permet de, c'est un protocole qui permet de communiquer entre différentes machines, de lui donner des informations
d'en contrôler
et de les jouer.
Une, d'en contrôler, de contrôler 50 machines avec juste un clavier. Ça, déjà, en matière de toute puissance, c'est assez
grande révolution.
Ouais, ouais, ah ouais, tu parles. Et donc, le problème, c'est que c'est une façon de produire du son, mais pas vraiment de l'enregistrer. C'est-à-dire, tu peux enregistrer en langage MIDI, mais donc, en fait, il va te répéter. C'est-à-dire, tu vas pouvoir, effectivement, ça, c'était le Korg M1 qui est sorti à la fin des années 80. C'est-à-dire que c'était un synthé qui avait 8 canaux avec dans chacun un synthé. Donc, on pouvait se faire des petites bandes, 8 pistes. Enfin, c'était pas des bandes, c'était juste des informations MIDI, des ordres, une façon d'écrire de la musique. Alors, t'avais une piste, je sais pas quoi, basse électrique, une piste batterie, une piste cuivre, une piste clavier. Donc, on pouvait se faire des petites démos assez bien, avec des petits effets pas mal, mais c'était franchement pas génial. Et en 2000, le G3... avec sa puce Intel.
Quelle machine, celle G3,
le Mac.
Ah oui, OK.
Qui permet, pour la première fois, pour pas cher, d'avoir un genre de studio d'enregistrement numérique.
D'accord, c'est le début du home studio, ouais, un peu avec une machine.
Exactement.
Des digital workstation, quoi.
Exactement. Ouais. Exactement. Et où on peut vraiment traiter la wave à la fois en édition, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des montages hyper précis, et en traitement, comme on ne le faisait que pour des dizaines de milliers d'euros auparavant.
Ouais.
Et là, on payait un peu pour la carte son, un peu pour le G3, et après ça, on avait un vrai studio
ça
numérique.
Ça démocratisait complètement le...
Quand j'écoute aujourd'hui, ça me fait pisser de rire. Mais bon, à l'époque, c'était genre... Et donc, j'ai un peu tout mis là-dedans, quoi.
C'est ce qui donne Time for Change.
Exactement.
C'est cette expérimentation à la maison avec le G3.
Voilà.
Mais avant le G3, il n'y avait pas déjà les Atari ou les choses comme ça?
Si, bah si, oui, oui. Si, j'ai commencé avec ça.
520, ouais. Les
Atari, bah ouais, ouais, ouais. Mais alors, encore une fois, ça, c'était du MIDI.
Ouais,
les
d'accord.
Atari, c'était du MIDI.
Il n'y avait pas la wave.
Exactement. Ouais. Alors, par MIDI... tu pouvais contrôler des samplers. Mmh. Moi, j'avais un Akai S950 qui pouvait enregistrer des sons jusqu'à 1 méga. Ouais. Je peux te dire que là, ouais, franchement, on les saurait, le méga, quoi. Avec les cordes, pour faire des tenues de cordes, tu fais un petit échantillon. L'astuce, c'est tu fais reverse, tu vois, tu fais dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire, tu commences à l'attaque, puis quand il arrive, pas à la fin complètement, mais au début de la fin, paf, tu le fais revenir en arrière, mais pas jusqu'au début de l'attaque.
Ouais.
Et c'est ça que tu mets en boucle.
Ouais.
Ce qui fait que quand t'entends attentivement les productions de l'époque, tu sais, t'entends un petit peu la boucle.
Et alors, tu te dis aussi, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, donc la technologie t'intéresse, à la maison tu te mets à pouvoir produire des choses, etc. C'est aussi une façon de renouveler artistiquement ta pratique. C'est de te dire, ok, moi je m'inscris dans le jazz, j'ai envie de découvrir autre chose, ou en tout cas d'insuffler quelque chose de différent dans ma musique.
Ah ouais, bah, c'est-à-dire, Il y a clairement l'envie de d'utiliser ces outils qui auparavant étaient vraiment séparés par une vie très épaisse. C'est-à-dire, tu rentres en studio quand t'es musicien, tu joues le piano. Ta notion du son, c'est comment tu vas arriver à faire sonner telle phrase sur le piano, blablabla, comme ça. Et de l'autre côté de la vitre, il y a un mec, à New York, les mecs, c'est souvent des musiciens, les ingénieurs du son, c'est vraiment, ils sont pointus, quoi. Mais eux, ils entendent des fréquences, ils entendent des espaces sonores, et ils n'entendent pas du tout la même chose que toi. Et donc, il y avait cette vitre épaisse entre les deux mondes, quoi. Et il y a beaucoup de musiciens de jazz, encore aujourd'hui, qui ne sont pas hyper conscients du fait qu'ils produisent un son. Ils ne font pas de la musique, ils produisent des sons.
Et tu penses que c'est spécifique au jazz? Parce que le mélange des instruments électroniques se faisait dans plein de styles déjà auparavant. Dans la pop, dans le rock.
Mais c'était. Tu louais un studio pendant deux semaines pour faire un album. En jazz, Moi, mon premier album, j'ai fait en 6 heures. Ah, rentres, tu sors et c'est mixé, quoi. Et voilà.
La prise de son, tracks. On est bon, quoi.
Ben ouais. T'as pas le temps, c'est trop cher, tout le monde est payé au lance-pierre. Tu rentres, tu sors et à la fin, t'as un disque. Et tu vois, tu vas pas commencer à t'emmerder à savoir comment il fonctionne l'ingénieur du son, tu vois. Donc, non, là, et en musique classique, encore moins. Hein,
même un Herbie Hancock, par exemple, il avait expérimenté. Mais c'est pas les mêmes moyens, je suis bien d'accord. Mais,
surtout, c'est le mec le plus curieux de l'histoire du jazz. Vraiment.
C'était pas un truc courant non plus dans le jazz, quoi. T'as eu des pionniers, des gens qui s'y intéressaient, mais à ton sens, il y avait encore une frontière.
Alors, en l'an 2000, ouais, non. Il y avait, bon, en Révolution électrique, il y a tous les musiciens dont j'ai cité le nom auparavant, Herbie Hancock, John McLaughlin, Chick Corea, tous ces gens-là, et plein d'autres. Et puis tous les mecs de plus pop anglaise, C'était un univers différent du mien, d'une part, et c'était une inspiration qui était... c'est-à-dire qu'eux, ils travaillaient sur des nouveaux instruments. Et moi, j'arrivais à une époque où on travaillait sur le son des instruments.
Okay.
Le son était devenu de la pâte à modeler. Et depuis le début des années 90, tu avais toute l'école berlinoise, tous les débuts de la drum and bass, et des mômes qui, en fait, utilisaient des échantillons, là, les Amen et tout ça, la façon de... comment ça s'appelait j'ai oublié ce logiciel pour ordi qui coupait le...
Du sampling, qui faisait du sampling.
Ouais, mais qui éditait vraiment les patterns de drum, là, le funky drummer, hein, okay. Et puis qui l'éditait à la 16e de croche, et puis après ça, on mélangeait et on fabriquait des beats en mélangeant comme ça, quoi. Okay. Donc, tous ces mots, mais le jazz, ils en avaient rien à foutre. Moi, j'avais une idole, c'était Amon Tobin. Et j'ai eu la chance d'aller l'interviewer officiellement pour Jazz Magazine. Okay. Parce que moi, je reconnaissais les échantillons. Ah ouais, ça, c'est le disque de Coltrane. Ah oui, ça, c'est bon. Et je lui dis, mais alors, le jazz, pour toi, tu dois adorer et tout, tu connais bien. Et lui, à mon tour, il dit, oh non, pas du tout. Moi, c'est juste le son qui m'intéresse. J'adore l'ambiance, les trucs. Ouais, les vieux disques Blue Note, je trouve qu'il y a une ambiance terrible. Il s'en foutait complètement, quoi, de la musique. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que c'est, un album comme Bricolage, c'est un degré de sophistication compositionnelle incroyable. Et qui est très proche du jazz, avec une approche jazz. C'est-à-dire, les beats, on les fait à l'endroit, puis on les fait à l'envers, puis il y a vraiment des façons de penser pareil.
Les flows, en fait.
Exactement, voilà. Ouais. Mais, sans du coup se préoccuper du contenu.
Du jazz en lui-même, la musique, quoi.
Et donc, moi, je trouvais ça très intéressant. Et en plus, j'avais l'impression, du point de vue du jazz, d'être l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, tu vois. La belle époque du jazz. Le jazz, ça a été la musique avec un M majuscule entre les années 20 et la fin des années 50. C'est-à-dire, t'entendais ça partout, quoi. Mm-hmm. Dans les films, dans les salles d'attente du dentiste, dans les dancing, au téléphone, en attente, dans les music halls, derrière les chanteurs. C'était vraiment... Il n'y avait que ça, quoi. Ouais. Avec un peu de... Début 50, le rock qui commence à arriver, quoi. Et donc, mais pendant 30 ans, c'était vraiment... T'entendais que ça. Ouais. Puis progressivement, ça a muté, et puis c'est devenu quelque chose de différent et de beaucoup moins populaire. Donc,
frustration pour toi à cette époque, quand tu faisais du jazz, entre guillemets, un peu plus classique, et te dire bah, comment être plus populaire, et justement, ça passait aussi par l'électronique.
C'était pas une histoire de populaire, c'était une histoire de création. Putain, j'allais entendre, bon, c'était les débuts du bateau phare, tout ça. Ouais. J'allais entendre des trucs, moi, qui me retournaient la tête, quoi. Mais d'une façon que le jazz me retournait plus la tête.
Ouais.
Mais 10 ans auparavant, ça me retournait la tête comme ça.
Ouais.
Et j'allais voir, et je disais à mon vieux pote Eddie Anderson, trompettiste monstrueux des albums mythiques de Herbie Hancock, électro, de fin années 60, début années 70, qu'on retrouve en bande sonore de la série Atlanta, là, de Childish Gambino, là, que j'ai écouté, j'étais là genre.
C'est Eddie
Anderson, ça. Oh putain, c'est le vieux sextant de Herbie, tout ça. Il le met en bande son, quoi, dans des moments un peu space. Et donc, Eddie Anderson, je lui dis, ah putain, Wynton Marsalis, il déchire. Et Eddie Rican, il dit, ouais, mais quand t'as connu Freddie Hubbard, tu vois, et je fais, ah ouais, d'accord, ah ouais. Et l'éditeur de mon bouquin sur Monk, lui, il était plus vieux que moi, beaucoup plus. Et fan de jazz, mais d'une génération d'avant, et je lui dis, putain, Freddie Hubbard, quand ça déchire, il fait, ouais, mais quand...
ouais, et ensuite, voilà.
Quand t'as écouté Clifford Brown, et lui, il avait écouté Clifford Brown, il dit, au début des années 50, et putain, ça, c'est vrai que t'entendais ça, tu t'étais plus même après. Ouais. Donc, en fait, tu te fais retourner la tête comme un gant une fois, et puis après ça, tout ce qui vient après dans le même style, t'as tendance un petit peu à comparer à ta première révélation.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, c'était neuf, quoi. Mm-hmm. C'était vraiment neuf.
Et alors, comment ça se passe de... Parce qu'on comprend bien ton intérêt artistique pour ces nouvelles vagues musicales, ces nouvelles formes, etc., que t'as envie d'intégrer à ta propre musique. Comment ça se transforme aussi en intérêt pour les machines en elles-mêmes, pour les inventeurs derrière? On va arriver petit à petit à les fous du son. C'était déjà là avant, ou c'est vraiment toi-même en pratiquant comme ça, en découvrant ce nouvel univers, beaucoup lié aux musiques électroniques, tu disais au début 2000, que tu t'es dit, je veux capter ce qui se passe derrière, quoi.
Écoute, de toute façon, t'es obligé, si tu veux faire de la musique électronique, bah, faut sortir le manuel, quoi. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que chaque... Bon, c'est vrai qu'avec les Japonais, on est rentré dans une ère industrielle qui donnait vraiment l'impression de fabrique à la chaîne, quoi.
C'est quoi, du Korg, du Roland, des...
Voilà, Yamaha, bon. Mais juste la génération d'avant, les Prophet, les Oberheim, les Moog, ben c'était des vraies personnes qui faisaient des vraies soudures, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était des électriciens, quoi.
Exactement. Donc, tu l'achètes dans un magasin et tu crois que c'est comme d'acheter une bagnole, c'est-à-dire c'est dans une série, mais en fait, il y a vraiment quelque chose.
C'est un truc, c'est... La machine a une âme, en fait.
Et Moog, il a toujours dit, moi, je mets un peu de moi dans cette machine, et le musicien qui la joue, c'est moi qui retrouve dedans, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est un très beau feeling.
C'était le moment où, justement, la machine avait le nom de son
inventeur. C'est vrai.
Ce qui s'est perdu avec, effectivement, les machines japonaises après, mais...
Mais alors, pas vraiment, quoi.
Ah.
Ça, c'était la surprise dans mes recherches, parce que effectivement, je connaissais quelques vies de certains gars, et ça avait l'air d'être des bons barrés. Et c'est vrai que il y a 10 ans exactement, il y a un journaliste qui s'appelle Bertrand Dical, qui est journaliste dans pas mal d'organes, dont Radio France. Et qui me dit, oh, t'as pas envie d'écrire un bouquin? Et je lui dis, j'écrirais bien un bouquin sur les inventeurs de clavier, mais je vais mettre 5 ans à l'écrire et ça va intéresser 3 personnes, quoi. j'ai effectivement mis 5 ans à l'écrire.
Mais ça intéressait plus que 3 personnes.
Voilà, exactement. Heureusement. Mais, c'est là que j'ai commencé à creuser, en fait. Je n'avais pas d'idée de là où ça allait me mener, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gars, ils étaient encore beaucoup plus fous que ce que j'imaginais, quoi.
Eh bien, allons-y. Une
belle transition.
Deuxième partie de ce podcast. Il faut qu'on parle quand même de quelques inventeurs que tu évoques dans ton livre, que tu fais plus que les évoquer, d'ailleurs. En fait, ton livre, d'ailleurs, est assez accessible, en réalité. Il raconte un peu la vie et l'œuvre et comment est né... Voilà, c'est des grandes machines à travers l'histoire de leurs inventeurs, quoi.
Bah ouais, c'est des gens très sympathiques, les inventeurs.
Ils ne sont pas tous sympas dans le bouquin. Hein.
Pas tous. L'inventeur du métier d'inventeur, Thomas Edison, est un enfoiré, quoi.
On commence par lui, du coup.
Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Allons-y, parce qu'on ne va pas acheter le bouquin si vous voulez connaître toutes les histoires, mais peut-être en sélectionner quelques-uns qui ont été marquants ou que toi, tu apprécies particulièrement. Mais c'est vrai qu'Edison, c'est la base.
J'étais surpris, ouais, d'ailleurs, qu'on parte aussi loin, en fait, parce qu'Edison, c'est vraiment l'électricité.
Ben oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je raconte l'histoire de la rencontre entre la musique et l'électricité.
Ouais, mais c'est vraiment, du coup, début de l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... On a tendance à penser que l'électricité, c'était d'abord... de la praticité, la lumière, ce genre de choses. Et en fait, dès le départ, les mecs, ils se sont dit...
Ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a un truc dont on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, c'est qu'entre 1880 et 1910, à part Internet, tous les paradigmes de notre modernité, le téléphone, le cinéma, l'aéroplane, le moteur à explosion, la radio...
De cette période-là, ouais.
Tout ça... Tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui a été inventé pendant ces 30 années-là. Ouais. Et ça partait dans tous les sens. Et donc, tu avais des gars qui misaient des millions et des millions, aujourd'hui, ce serait des milliards, la possibilité. En fait, voilà. Et Edison, qui était un gars qui était hyper carré, très, très business, n'hésitant pas à piquer les idées des autres, etc., et de se faire du pognon avec. Vraiment, le gars, très terre à terre.
Ouais.
N'empêche qu'ils pensaient que les ondes électromagnétiques, c'est là qu'habitaient les âmes des morts, quoi.
Ouais, d'accord. Okay.
C'est-à-dire qu'on pouvait combiner à la fois une espèce de mystique à la Philippe K. Dick,
ouais,
et en même temps être un enfoiré de businessman, ouais, et de piquer le brevet de l'enregistrement du son, du phonographe, qui est piqué à Charles Cros. Notre cher Charles Cros, bien français,
ouais,
qui lui, poète, alcoolique, voilà, il invente le phonotographe, et puis il est très pressé de faire une déclaration publique à l'Académie des sciences en France, et puis il y a un abbé très bien intentionné qui prend tout en note, qui publie un petit ouvrage qu'on retrouve sur le bureau de Thomas Edison un an après, peu de temps avant qu'il brevette le phonographe, quoi.
Ah ouais.
Et donc Edison, lui, il est sourd comme un pot depuis qu'il est tout petit. Donc la musique, il s'en fout. Le phonographe, il invente ça. Enfin,
du coup, oui.
Ouais, bref, sans commentaire. Et il faut donner, quand on dépose un brevet aux États-Unis, la liste des utilisations pour le bien public.
Ouais.
Et enregistrer de la musique n'arrive qu'en cinquième position. Il pensait avoir en fait inventé un dictaphone.
D'accord.
C'est incroyable parce que ça paraît très moderne comme idée, mais ouais. Comme quoi les mecs ils pensaient quand même assez loin. C'était le patron trop pressé pour dicter à sa secrétaire les lettres, déjà à l'époque, quoi.
Ouais, d'accord.
Le messmaker de l'époque, quoi.
Rappelons, avant de parler de toutes les utilisations, le phonographe, en quoi ça consiste?
Le phonographe, c'est une espèce de miracle de la physique du son, dont je n'arrive aujourd'hui toujours pas à m'expliquer pourquoi il a été inventé aussi tard.
C'est
pourquoi...
ce que tu dis dans le bouquin, effectivement.
Ben ouais, un gars comme Léonard de Vinci, c'était parfaitement dans ses cordes d'inventer ça. C'est très simple. C'est comme le téléphone en pot de yaourt, hein. C'est-à-dire que les ondes que je produis avec ma voix, ou n'importe quelles sont d'ailleurs, ça va dans un cornet qui se rétrécit avec un fond qui vibre, ok, et les vibrations de ce fond, de façon complètement miraculeuse, en fait comprennent toutes les vibrations émises,
les véhicules,
voilà. Et alors après ça, donc dans le cas du phonographe, c'est donc une petite aiguille qui est au milieu de cette membrane. On fait tourner un rouleau en aluminium, une matière qui est facilement gravable. Hein. On fait tourner comme ça en hélice. Et tout simplement, je parle dans le poste, voilà, là, mon onde sonore rentre dans le cornet, ça fait vibrer, ça fait très sauter la petite aiguille qui, effectivement, grave des trucs sur l'aluminium. On change l'aiguille. On prend une petite aiguille plus fine, parce que sinon on efface ce qu'on vient d'enregistrer. Et miracle absolu.
Ça reproduit.
Quand on fait tourner le cylindre avec la gravure dessus, eh bien la gravure fait tressauter l'aiguille qui fait s'agiter la membrane et restitue le son original.
Ouais, c'est
un truc d'une simplicité, mais biblique.
C'est ce qu'on a dans les boîtes à musique, en fait, maintenant. Un petit peu le principe du cylindre avec
Alors,
c'est encore c'est avec les. Oui,
c'est avec des lamelles.
Ouais. C'est des lamelles. Ouais.
Ah, t'es en train d'inventer le clavinet.
Waouh. Oui, donc c'est une invention d'une simplicité incroyable,
absolument,
mais complètement révolutionnaire aussi en même temps.
Exactement. Ouais. Parce qu'à partir et qui il faut bien le souligner est complètement indépendante de l'électricité. C'est un procédé mécanique, quoi.
Ouais.
Et moi, j'ai un truc de mon grand-père où on remonte. Et c'est extrêmement astucieux, c'est-à-dire que le fond de la boîte sert de résonateur. Il y a également une espèce de petite membrane pour les aigus dans la tête sur laquelle est attachée l'aiguille. Et ça donne un putain de son, en fait, avec deux quasiment stéréo, quoi, ouais. De facto. Enfin, pas au sens où on l'entend, mais avec des graves et des aigus. Et c'est extrêmement astucieux, quoi.
Et pour revenir un peu à Edison, donc tu parlais d'utilisation, alors tu disais la musique arrive en cinquième, et d'ailleurs, un petit truc au passage, en fait, en cinquième position la musique, c'est quasiment la naissance, c'est la musique enregistrée, c'est la naissance de la musique enregistrée.
Absolument, absolument.
Notre époque d'aujourd'hui résulte de cette découverte.
Exactement,
quoi.
Sauf qu'il y a un petit malin qui s'appelle Emil Berliner, qui dit « les rouleaux, c'est sympa, mais c'est pas génial », et c'est lui qui invente le disque. Ça, franchement, fallait le faire aussi, quoi. Mmh. Et c'est génial, parce que c'est plus de la gravure de haut en bas, mais de droite à gauche. Enfin, on change de plan, et la gravure, elle se fait comme ça. Et d'ailleurs, Deutsche Grammophon, c'est ça. En fait, c'est Emil Berliner qui, très rapidement, dès 1900, a déjà plusieurs dizaines d'enregistrements. Alors, c'est surtout de la voix, des choses qui se gravent bien, quoi, parce que il y a pas beaucoup de bandes passantes. Alors, tout ce qui est un peu médium, oui. Ça se passe bien. Des ténors, des sopranes, voilà, ça. Il a tout de suite compris qu'effectivement, avec ça, on allait non pas enregistrer le courrier de la secrétaire, mais inventer le principe de maison de disque, quoi, avec des artistes, tout ça.
C'est dingue.
Ouais, c'est fou.
Donc, Edison qui pose un peu les bases, mais Edison en tant que tel qui, lui, ne pense pas à la musique.
Non, lui, il pense à l'électricité tout de suite après. Il pique l'idée de l'ampoule à un Anglais. L'anglais, il fait hop, et Edison dit, bon, ok, alors, vous gardez l'exploitation d'Angleterre et moi, je garde le reste du monde. Et l'anglais, il fait genre, ok, ça marche.
C'est pas un visionnaire, mais bon.
Non, mais lui, justement, il était plus Académie des sciences et tout, pour lui, c'était vraiment son honneur qu'il défendait, pas du tout son portefeuille. Et donc, Edison va jusqu'à découvrir un peu par hasard, l'existence des ondes électromagnétiques, la présence d'un peu de noir à l'intérieur de son ampoule. Et donc, il brevette tout ça sans vraiment savoir. Il brevette à tour de bras, quoi. Et ça, c'est un personnage... Enfin, c'est une dimension très importante dans la vie de ces inventeurs. Mmh. C'est le brevet, quoi. Mmh. Et pour revenir donc à ces personnes d'inventeurs, tous les inventeurs dont je parle évoluent à l'intérieur d'une figure géométrique qui serait un triangle dont les trois hauteurs seraient le business, la science et l'art. Mmh. Et en fonction de leur proximité d'une de ces pointes, ça va définir complètement leur vie, la façon dont ils inventent.
Ce qui est passionnant, et c'est pour ça aussi qu'on te reçoit et que j'aime bien ces discussions, c'est... Ce triangle dont tu parles, business, musique... Non, tu disais business, art, pardon.
Et science.
Et science. On voit bien que très tôt, effectivement, tout ça se mélange. C'est-à-dire qu'on a une image, il y a une part de vrai là-dedans, hein, mais disant que la musique, c'est extrêmement industrialisée aujourd'hui, qu'elle est trop économique, qu'en tant qu'artiste, tu dois trop avoir ça en tête, ce qui est une réalité, je pense. Mais pour autant, c'est pas quelque chose de complètement neuf non plus.
Ça a toujours été le cas, en fait.
Et que oui, lorsque tu proposes tes productions, tes œuvres, ton art aux autres... Eh bien, ça va passer par des supports, par des formats, ça va demander aussi un besoin économique. Enfin, et puis, il faut en vivre aussi, idéalement. Si tu peux en bouffer, c'est quand même mieux pour pouvoir te consacrer à ton art. Et donc, la question, elle se pose, en fait.
Ben oui, il y a un art du business de la science.
Absolument.
C'est ça, c'est bien résumé. Ouais. Ouais.
Alors, OK, Edison, parce que donc lui, c'était pas la musique en tant que telle son grand kiff. Par contre, arrivent des inventeurs derrière qui, eux, se disent « on va mettre à profit l'électricité ». Et les inventions qu'on vient de découvrir avant nous, les découvertes avant nous, pour vraiment servir la musique en tant que telle. Est-ce que toi, t'as, t'as, un personnage en particulier qui te paraît crucial.
Sans hésiter, Léon Thérémine.
Ouais.
Léon Thérémine, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est réellement avec la radio, l'invention de la radio, et donc la découverte concrète, parce qu'elle avait été théorisée, de l'existence des ondes électromagnétiques. Donc, ça force à inventer des oscillateurs, qui sont une espèce de petite machine électronique qui arrive à créer 50 000 petites impulsions à la seconde. Et là, faut se lever de bonne heure pour y arriver, quoi.
Pour ceux qui s'intéressent aux synthétiseurs, à la musique d'aujourd'hui, etc., les oscillateurs, ça doit leur parler.
Ah bah oui, mais ceux qui s'intéressent à la radio en général, et les synthés sont arrivés après cette découverte. Donc, et encore une fois, toujours, les gars, ils cherchent le sucre, ils trouvent le beurre, ils sont jamais... Ou alors, ils passent complètement à côté de leur invention. Lee de Forest, qui est donc l'inventeur officiel, mais qui a un peu piqué, l'inventeur officiel de la triode, hein, qui est vraiment ce à partir de quoi on fabrique les premiers oscillateurs. Donc ces petites pièces électroniques qui arrivent à créer une onde électromagnétique, hein, de 40 000 vibrations à la seconde, quoi, enfin impulsions à la seconde. Lee de Forest, lui, il passe un peu à côté de son invention, et c'est un gars qui s'appelle Armstrong qui arrive derrière et qui invente l'amplification, c'est-à-dire le principe de feedback, c'est-à-dire qu'on fait passer un signal sonore avec une sorte de véhicule électromagnétique, et le signal qui sort, hop, on le remet dedans, et ainsi de suite. Et donc, et ça, c'est l'amplification.
C'est ce qu'on trouve dans les amplis de guitare d'aujourd'hui, encore.
Exactement. Et donc, en fait, avec la radio, sont développés des outils qui vont permettre de créer du son. Alors, pourquoi est-ce que Thérémine est le gars le plus intéressant? C'est parce que, bon, il a précédé de pas beaucoup un gars qui s'appelle Maurice Martineau, qui a inventé les ondes Martineau en France, mais qui lui aussi a une trajectoire très spéciale, pas du tout business. Lui, c'était un prof de musique. Il voulait rester dans la postérité pour sa méthode d'apprentissage de la musique, la respiration. Il était branché, philosophie indienne, tout ça. C'est un type brillantissime et extrêmement en avance sur son temps. Mais Thérémine est passé avant, c'est donc un Russe, il joue du violoncelle, il est ingénieur radio pendant la Première Guerre mondiale, qui donne un boost incroyable à la recherche dans le domaine, parce que tu t'imagines, la radio, quand tu peux, peux dire attention, ils arrivent. Là, c'est... Donc, il est là, il bosse dans une sorte de labo où il y a plein d'oscillateurs et puis des postes à galène, et puis il se rend compte que quand il passe devant un récepteur, ça fait une sorte comme ça, et n'importe quel bon ingénieur dit il faut que j'élimine cette fréquence, ouais. Et lui, comme il a déjà un tour de tête particulier, il dit ce serait génial si on arrivait à maîtriser la hauteur des sons, quoi. Ouais. Et donc il invente cet instrument.
Le Thérémine, donc.
Le Thérémine, qui aura 20 000 noms,
ouais.
Qui consiste en un gros bloc électronique, un peu comme un pupitre, une antenne verticale, une antenne horizontale. Et sans rien toucher, en approchant la main droite de la verticale, on monte le pitch, et main gauche, on maîtrise la dynamique, le volume. Donc, ça fait...
Pourquoi on n'a pas besoin de Thérémine, on appelle Laurent.
Dans le vide.
Ouais.
Et là, on est début des années 20, quoi.
Ouais.
C'est...
Mais alors,
il est russe. Et donc, il devient soviétique.
Ouais.
Parce qu'entre-temps, en 1917, voilà, en pleine guerre mondiale, Première Guerre mondiale, la Russie devient l'Union soviétique. Ça. Donc, il montre à Lénine son invention, qui adore ça, qui lui dit « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. L'électricité, c'est toi. Tu vas faire chanter les stades. » Et il lui fait un USSR tour de démo
pour
galvaniser le peuple. La beauté de la révolution soviétique, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que tu fais une espèce de musique. Ça sonne un peu vraiment comme une scie musicale, ouais. mais à voir. Et il remplit des stades, quoi. Et du coup, c'est les débuts de l'amplification. Alors, il y a des gros speakers et tout ça, mais enfin, bon, un peu rudimentaire.
Ouais, bah oui.
Et donc, il fait tournée russe, énorme succès. Tournée européenne, énorme succès. Tournée américaine, il est parti pour faire un mois de tournée aux États-Unis, il reste 10 ans. Et là, il se fait complètement attraper par le rêve américain. Il veut rester.
Il fait défection, en fait.
En fait, il ne fait pas vraiment défection.
Ouais.
Parce qu'il a la bénédiction du GRU, les services extérieurs, voilà. Qui lui disent, écoute, très bien, vas-y, reste là. D'ailleurs, ils lui disent, arrange-toi pour avoir postuler sur des concours pour des aéroplanes, des trucs comme ça, puis tu nous fais passer les plans.
Donc, en fait, il est agent double.
En fait, il est utilisé comme agent double.
Ouais.
Et lui, dans sa tête, il pense qu'il va faire des millions avec son thérémine.
Ouais.
Et donc, il manque un peu de timing, quoi. Parce qu'au moment où il arrive aux États-Unis, il arrive en 1928, 1929, la crise,
ouais.
qui se répercute. Et donc, il signe juste à ce moment-là. On lui file un gros acompte. Il est millionnaire. Puis 3 ans plus tard, en fait, il a vendu dans tous les États-Unis, je ne sais plus combien, 3000 unités.
Ouais, d'accord.
Et en plus, les 3/4 ne marchent pas. Mmh. Et quand ça ne marche pas, c'est le service après-vente. Mais le service après-vente, ça ne se fait pas en container avec des bateaux chinois. Hein.
Ouais.
C'est sur la carriole. Et sur la carriole, il lui arrive de prendre des coups aussi. Et donc, quand il arrive un mois après, il faut tout le réparer, etc. Donc, le business plan, pas ouais. génial. Quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que Thérémine, c'est quand même presque une forme d'échec en tant que tel. Parce que le
glorieux échec.
Absolument, mais l'instrument en lui-même, il ne trouvera jamais complètement son public. Alors, il aura des hauts débats, on sait par exemple dans la musique de films, dans les séries, etc. On l'a beaucoup utilisé autour
pour
des années 50,
aliens,
60, exactement,
ouais,
les trucs d'invasion.
Ou films d'horreur et tout ça.
Ça a redonné vraiment, ça a remis en valeur le thérémine.
Sauf que
C'était même pas le thérémine original en plus.
C'était vraiment le même principe.
Ouais, ouais.
Bon, le problème de fond du thérémine qu'avait résolu d'ailleurs Martenot, c'est que le thérémine n'a pas d'attaque.
Ouais.
Il est monophonique, ok. Bon, déjà, ça c'est un peu chiant, mais on s'y fait. Mais il n'a pas d'attaque. La façon dont sont faites les ondes Martenot au départ, c'est exactement le même principe, sauf que l'attaque, elle se fait à la main gauche, comme ça, avec un petit si on n'appuie pas, ça fait pas de son, et si on appuie, ça fait du son très rapidement, quoi. C'est, on peut dessiner des enveloppes qui sont assez brutales, et donc avoir vraiment un son avec de l'attaque. Le problème avec le thérémine, c'est que tout le monde en veut. Quand tu vois le thérémine, moi j'ai un thérémine chez moi, ouais. Les gens qui l'ont jamais vu disent ah putain. J'en veux un,
c'est incroyable.
Et c'est hyper dur à jouer, parce que la justesse dans le vide, quand on s'appuie sur une touche
ouais, on comprend. Ouais.
Là, c'est ta main qui flotte dans
là,
le vide.
Là, c'est vraiment dans l'air. Donc, il faut une bonne pratique en général. Les violoncellistes, les violonistes sont bons à ça.
Ils étaient tous calibrés un peu de la même manière, ou en plus, il pouvait y avoir des différences.
Tu calibres comme tu veux. Mais enfin, bon, grosso modo, c'est vraiment... Ta justesse dépend vraiment de...
Ouais, de
alors,
de
tu sais, tu as des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois, hop, ting, tac, tic, tac. Là, ouais. là, ça fait la différence dans le vide, quoi.
Ouais.
Donc,
tu montrais un tout petit mouvement, quoi.
Voilà, exactement.
Donc, c'est pas pratique, en fait.
Donc, en fait, c'est pas pratique. Les gens, ils le rendent bon. Donc, par contre, il développe ça façon violoncelle, il développe ça façon clavier, il développe ça façon thérémine, il développe ça façon danseuse sur une plaque.
D'accord.
Qui, dans ses mouvements dans l'air, définit la hauteur des sons.
Ouais.
Et là, on est 1er avril 1934, concert Carnegie Hall avec tout ça, quoi.
Ouais.
Il a planté des petites graines qui vont fructifier plus tard. Bob Moog, c'est le premier truc qu'il fabrique quand il est môme, quand il est ado, dans un magazine d'électronique. Il trouve les plans de la fabrication d'un thérémine, et c'est l'instrument qu'il construira toute sa vie, à travers toutes ces galères, tout ça, de la richesse à la pauvreté, à l'ignorance, et puis à la redécouverte. Il fera tout le temps des thérémines. Et thérémine, lui, par contre, en 1938, il a le fisc américain au cul, il a également le FBI, il décide de rentrer en URSS, il pense qu'il va être accueilli comme le Messie, tombe en pleine purge stalinienne, il se ramasse 10 ans de goulag, il est sauvé par la Deuxième Guerre mondiale, parce que Staline a mis tous ses scientifiques au goulag. Donc, il demande à Tupolev, des avions Tupolev, de dire « Fais-moi la liste des 100 scientifiques que je dois épargner du goulag. » Et heureusement, il y avait Theramine dessus, à cause justement de d'un petit altimètre qu'il avait inventé pour justement les avions, à des fins d'espionnage pour le GRU. Et donc, après ça, il disparaît complètement du paysage. Tout le monde le croit mort. Et en fait, il n'est pas mort du tout. Mais il travaille pour les services secrets. Il invente c'est une vie.
C'est ça qui est génial avec toutes les histoires qu'il y a dans ton bouquin. C'est que ça va au-delà de la musique, d'une part. C'est des histoires de vie souvent assez incroyables, parce que c'est des gens exceptionnels. Et puis, des échecs, des grands succès aussi.
Mais
et,
ouais.
Et tu parlais de Bob Moog, par exemple, Moog. On pourrait parler de Hammond, de Rhodes, etc. Et pareil, lequel, cette fois-ci, parce que Theramine, c'est un demi-échec ou un demi-succès, je sais pas.
C'est plus de l'invention que de la musique pure.
C'est-à-dire qu'il n'a pas imprimé, enfin, il n'a pas laissé sa marque dans les studios d'aujourd'hui encore, tu vois. C'est à l'inverse.
C'est-à-dire, il est quand même, c'est le premier à avoir inventé vraiment une façon de faire de la musique avec un oscillateur, quoi.
Il est partout,
franchement,
tout découle de là, mais
pas sous sa forme actuelle. Quoique le Theramine, moi j'en vois souvent dans les studios, c'est connu comme instrument. Non, alors le vrai success story, c'est Lawrence Hammond. Mais lui, il est sauvé par un truc, c'est que dans notre fameux triangle art, musique et science, lui, il est coté business, science. Pas mélomane. Il s'en fout un peu. Okay. Il comprend qu'il y a un truc à jouer.
Bon, Hammond, d'ailleurs, le nom doit évoquer pour les musiciens, on pense forcément à un orgue.
L'orgue Hammond. Et pas n'importe lequel. L'orgue Hammond B3, parce que lui, son truc, c'est d'imiter à la cheap en reprenant les plans d'une invention d'un gars. Mais alors, lui qui... je vais pas raconter tout le bouquin non plus. Donc il reprend à son compte un brevet qui était tombé en désuétude. Et c'est le principe des roues phoniques, c'est-à-dire des petits trous dentés qui tournent devant un électroaimant et qui donc créent une fréquence en fonction de la proximité, n'est-ce pas, de la pièce de métal quand elle tourne de l'électroaimant. Donc ça crée une fréquence, donc un son. Et puis il sait que juste une fréquence, ça suffit pas pour faire un bel instrument de musique, il faut les harmoniques. Alors il calcule les bons harmoniques. Alors du coup, en fait, pour faire une note, il y a une barre avec 8 roues dentées qui tournent. Et puis comme il a été horloger avant, il sait très bien faire ça, synchroniser tout ça, ce qui fait que son instrument il est juste. Mais son objectif, lui, c'est de faire la démocratie à l'américaine, c'est-à-dire des orgues pour toutes les églises. On va pas, ça coûte cher, les tuyaux, tout ça. Ouais. Donc, pour 50 fois moins, hop, on a un orgue d'église. Et donc, il met tout son savoir-faire au service de cette idée. Et puis, 20 ans après l'invention du premier orgue à monde, parce qu'ils sont sans arrêt à réinventer des trucs, il y a un gars qui dit « Ah ouais, ce serait marrant si on mettait un petit peu d'attaque sur le clavier. » Et ça, c'est le B3. Et là, du coup, alors qu'auparavant, c'était un instrument de musique classique pour la messe, quoi.
Ça change la sonorité du truc, en fait.
Le game est complètement changé. Les jazzmen sautent dessus, début des années 50. Après ça, ça part dans le rock, dans la pop, dans absolument tout. Et l'orgue à monde, encore aujourd'hui, c'est un son qu'on entend très souvent. Là, c'est un des presets sur tous les synthés qu'on entend partout, quoi.
Mais donc, c'est quelque chose dont l'inventeur, en fait, savait même pas ce qu'il avait au bout des mains, quoi.
Alors, d'un autre côté, ça, par contre, c'est très intéressant, les inventeurs, parce qu'ils ont tout un processus créatif. Ce qui est sympa avec les inventeurs, c'est qu'ils sont sans arrêt en train... ils sont irrités par le temps présent. Ils comprennent pas pourquoi on n'en est pas à l'étape d'après, quoi. Et puis pourquoi ça marche pas. Ou alors quand ça marche, franchement, il y a moyen que ça marche mieux, quoi. Ouais. Les gars, ils sont toujours, c'est pas mal, mais franchement, il y a moyen de faire mieux, quoi.
En fait, ouais,
voilà.
Ouais.
Et donc, le processus d'invention est une espèce de, c'est d'ailleurs assez mystique parce que à des endroits du globe différents, au même moment, des gars pensent la même invention en même temps, sans en ignorant leur existence respective. Bon, plus on avance dans l'histoire, moins c'est possible, bien entendu, mais au début, c'est très frappant. Martenot et Theramine en est une très bonne illustration. Et donc, L'Orgamonde, par contre, lui, en 8 mois, quoi, il invente, parce que en fait, il a une usine d'horloge. OK ? Et la moitié de ses revenus, c'est des brevets, parce qu'il a inventé une horloge électromécanique. C'est-à-dire une horloge qui fonctionne sur l'électricité, parce que maintenant, l'électricité aux États-Unis, elle est bien pulsée, quoi. Ouais. 60 Hertz. Mm-hmm. Et en fait, elle est tellement bien pulsée qu'elle est bien cloquée, quoi, comme ouais. on dit hein, aujourd'hui, que en fait, tu peux mettre une horloge dessus, quoi. Sauf que, à l'époque, ça arrivait que ça tombe en panne. Et donc, le problème avec les horloges électroniques, cloquées sur le courant, c'est que quand le courant, quand les plombs sautaient, et il était minuit, quoi. Ouais. Et donc, il avait inventé un système de décrochage, c'est-à-dire une horloge mécanique qui prenait le relais quand l'électricité plus, faisait ouais. défaut. Sauf que c'est un système qui avait déjà été inventé en Allemagne sur un carillon à la fin du 19e siècle, incroyable. Ouais. Le mec, très, très en avance sur son temps aussi. Et donc, paf, il perd tous ses revenus de royalties d'inventeur, quoi. Ouais. Donc il va foutre et en plus c'est la crise de 29 qui commence à taper très dur. Donc il faut qu'il invente un truc.
Il faut qu'il cherche quelque chose d'autre.
Voilà. Alors il invente la table à distribuer des cartes quand on joue au
poker et compagnie.
Non, pas au poker, au bridge.
Ouais.
Distributeur automatique de cartes de bridge.
Ok.
Le tabac, quoi. Franchement. Parce que tout ça, c'est les rouages, la mécanique, ouais. Le truc un petit peu articulé. Bon. Et il fait ça juste trop bien. Il arrive à sauver l'usine pour Noël.
Ouais.
Mais il sait qu'il va pas pouvoir passer le Noël prochain. Ouais. Et donc, entre ça et le Noël d'après, il invente le putain d'Orgamonde.
Incroyable.
Et ça, c'est-à-dire que t'as l'impression. Souvent, quand on invente, on part dans un sens puis on s'aperçoit que ça marche pas. Ça. Ouais. Lui, ça c'est hallucinant. C'est-à-dire que chaque étape de l'invention va dans le bon sens.
Il sait où il va.
Et c'est un exemple vraiment confondant d'une invention qui s'invente quasiment elle-même. Mm-hmm. C'est-à-dire ça, c'est un procédé artistique. Quand on improvise, il y a un moment où on fait plus attention aux notes, on fait plus attention à qui joue quoi. C'est juste, ça va là où ça doit aller. Quoi.
Le flow,
exactement,
quoi.
Ouais. C'est la musique qui prend le relais. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que les inventeurs sont des gens aussi sympathiques, c'est qu'ils ont un peu, c'est pas l'espace d'un concert, mais sur 3 mois, 6 mois, les mecs ils sont mais dedans à un tel point que quand ils arrivent au bout, bah, le monde est plus pareil.
Ouais.
Quoi.
Ouais, c'est fou ça.
Puis en plus, il faut rajouter la surcouche parfois aussi marketing, c'est-à-dire qu'il y a l'invention, puis après il faut la vendre cette invention. Et puis comment on la vend ? Est-ce que c'est forcément l'utilisation qu'on avait en tête ou pas? J'ai un exemple. Alors, je vais pas te faire concurrence parce que c'est pas dans ton bouquin. C'est sur un effet dans la guitare, la fuzz, par exemple. L'une des premières fuzz produites à grande échelle, qui est la Maestro FZ1, la Fuzz Tone. En fait, c'était Gibson qui était derrière. Mais en gros, ils savaient pas, la saturation, c'était pas un truc commun encore à cette époque-là. Ils allaient pas mettre en avant, voici une saturation pour la guitare. Et donc, ils disaient plutôt, ça modifie le son de votre guitare, et puis vous avez des sons un peu de trompette, un peu de machin. Ils faisaient des références.
Ouais.
Et puis, en fait, c'est les musiciens eux-mêmes, les guitaristes, qui se sont emparés de l'outil, qui se sont dit, mais non, nous, on va pas l'utiliser comme ça. C'est pas pour une reproduction d'autres instruments. C'est un son bien typique, bien spécifique.
Ouais.
Et on va l'utiliser d'une manière différente.
Voilà, qui tout d'un coup les excite. Alors, c'est très marrant, parce que ça va vraiment dans les deux sens. Parce que il y a le cas, effectivement, du musicien qui utilise la fuzz, une sorte d'effet altéré qui est pas forcément voulu, qui est parfois un accident. Le mini Moog, d'ailleurs, le son est légèrement saturé et en fait c'est une erreur, mais ils ont gardé l'erreur parce que le son il est juste trop fat comme ça, quoi. Donc il y a les musiciens qui s'emparent, enfin qui voient tout de suite la qualité dans l'erreur technique. Mais il y a le cas par exemple de John Chowning, inventeur de la synthèse FM. À modulation de fréquence, qui était un truc assez complet qui existait de façon théorique, et qui donc, lui, c'est un gars, lui, il est passionné de, justement, de diffusion du son, la musique pour speakers, quoi. Alors, c'est un des premiers à utiliser 18 diffusions différentes, à spatialiser le son et tout. Le gars, il est vraiment
chez Dolby Atmos avant heure.
Exactement, mais très expert, quoi. Et il est tellement expé qu'il se fait virer de sa fac. Et en fait, il y a deux Japonais qui viennent le voir en disant ça, notre travaux, ça nous intéresse. Vos travaux, ça nous intéresse. Et c'était les mecs de Yamaha, donc, qui avaient compris que la synthèse FM arriverait à synthétiser des sons qu'on n'arrivait pas à synthétiser auparavant.
Alors, parce que, excuse-moi, je t'interromps, après je te laisse continuer. C'est, jusque-là, on a beaucoup parlé, par exemple, on pourrait parler de Kurzweil aussi, d'Euro, etc. C'est plutôt des claviers électriques.
Ouais. Électroniques.
Électroniques. Ouais. En tout cas, qui fonctionnent avec l'électricité, mais qui ne sont pas sur le principe, effectivement, du synthétiseur, de la synthèse. Et là, c'est ce dont tu es en train de nous parler.
Ah, si. Faut diviser. Si, si. Alors, si. Là, le principe, c'est du son de synthèse. Ouais. C'est-à-dire que pour produire du son, il n'y a pas 36 façons. Ou on produit du son en analogue, comme on est en train de le faire en ce moment, avec nos voix, éventuellement une guitare amplifiée, mais c'est quand même un signal analogue, ou alors on donne, avec un clavier ou n'importe, ou un pad, ou ce qu'on veut, un contrôleur quelconque, l'ordre de créer un son de synthèse avec de l'électricité. Rien que de l'électricité, puis des composants électroniques.
Okay.
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que John Chaonik, donc le Moog et tous ces gens-là, au début, ils ont une façon de créer de sons avec synthèse additive, soustractive, etc. Mais c'était pas du tout sur la modulation de fréquence. Et du coup, effectivement, on arrive à imiter assez bien des violons, mais par exemple tous les instruments de percussion, ou alors la basse slapée, tout ça, on n'arrive pas à faire. Et la synthèse FM fait ça très bien. Donc là, on est dans le cas inverse de musiciens qui s'approprient une façon de faire du son. Là, ce sont des industriels qui s'approprient les recherches d'un musicien chez pair qui arrive à créer, pas de façon entièrement synthétique, un son de trompette hyper nasal qui devient un son de caisse claire. Et en faisant tout le parcours de l'un à l'autre, et qui dit là, on va faire des millions parce qu'on va vendre des trompettes et des caisses claires. Et John Chaonik continue, il est encore vivant, il est très âgé maintenant, et il continue des recherches très très théorique, très très avec des musiques vraiment très très intellectuelles entre guillemets, mais il a été complètement exploité aussi entre guillemets. Il est revenu dans son université dont on l'avait viré à coup de pompe. Il est revenu carrément avec la place de parking réservée au dean de l'université, parce que tout le pognon qu'il a amené avec les royalties, parce que en plus, bien entendu, il y a toutes ces histoires de pognon. Quand on est chercheur d'une université,
c'est la fac qui récupère.
La fac qui récupère le plus gros des royalties. Donc lui, il a amené. Il a fait vivre tout le campus pendant quelques décennies.
Donc en fait, ouais, par rapport à ce que nous on s'était dit hors antenne, tu sais, où on se disait que le Rhodes ou le Hammond, justement, c'était pas exactement des synthés. En fait, si, tout à fait. À partir du moment où il y a du signal électrique
alors,
qui passe.
Le Rhodes n'est pas un synthé, parce que justement, là, on est dans l'analogique. Le Rhodes, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que c'est un instrument qui est aussi apprécié des pianistes, c'est parce qu'il reste, justement, tous les autres claviers reproduisent électroniquement le toucher d'un piano. Tandis que le Rhodes, c'est une touche qui aussi, avec un marteau au bout, et qui vient taper contre quelque chose.
D'accord.
Et donc ça, c'est vraiment analogique, et c'est pour ça que c'est un instrument qui a vachement dynamique et très agréable à jouer. Ouais. En plus, il a un bounce qui est très différent du piano acoustique. Donc, c'est pour ça qu'il a... Et puis, il est très solide, on peut faire 20 fois le tour du monde avec, très facile à réparer. Et donc, le principe est encore une fois extrêmement simple. C'est toujours les trucs très simples qui marchent le mieux. C'est... il tape sur une espèce de lamelle de métal, mais la lamelle de métal, en général, comme elle est très courte, ça devrait faire un son très aigu. Et il a inventé le principe du diapason asymétrique, hein, tu vois le diapason, c'est-à-dire les deux branches, puis on tape les deux branches, et puis c'est ça qui crée la résonance. Sauf qu'il y a une branche qui est très fine, qui s'appelle une tine, et l'autre branche qui est très épaisse et qui est un résonateur. Donc, avec le marteau, le petit marteau en plastoc, paf, il vient taper la tine. Et la tine, elle est reliée au résonateur. Donc, le tout résonne devant un électroaimant. La tine, comme ça, même principe que la roue phonique de l'orgamonde et que la cordes de guitare devant le micro de guitare. Donc, ça, c'est d'ailleurs ces petits micros de guitare, et c'est pour ça qu'il s'est associé à Fender pour la fabrication. Et à partir de là, ça devient un signal amplifié,
d'accord, donc là,
analogue. Donc, c'est vraiment comme, c'est comme une gratte électrique.
Ok.
De toute façon, il y a tellement d'histoire dans ton bouquin, etc. On pourrait faire un podcast de 3 heures.
Oh yeah. Alors d'accord.
Mais il faut dire quand même que donc tu commences avec Edison dans le bouquin, ça se termine disons à peu près à l'arrivée du numérique. Tu termines vers DX7, etc.
Ah. Alors
c'était avant même le ouais.
Moi il fallait que je me donne une limite.
Ouais. Tu traites quand même du DX7 par exemple qui est numérique en l'occurrence.
Alors c'est-à-dire on est encore dans la synthèse de son. C'est-à-dire que le numérique peut être utilisé pour synthétiser le son ou pour l'échantillonner. Les deux arrivent à peu près en même temps. L'échantillonnage, après ça part dans les sampleurs. Donc, comme on l'a dit, ça peut se trigger en MIDI, tout ça. Ça se joue comme des instruments, mais ça ne reste que des sampleurs.
Oui, il y a des sampleurs très particuliers, type Mellotron, où tu traites aussi d'ailleurs.
Ah oui, alors ça, c'est pas. Oui, ça, c'est des sampleurs analogues. Ouais, quoi,
absolument,
il y a des cassettes.
C'est incroyable, mais lisez le bouquin pour ça.
Ah, yes. se développe également l'enregistrement analogue. Digital, pardon. Il faudrait dire numérique. L'enregistrement numérique, là, ça devient une avenue complètement différente. Donc, il ne faut pas mélanger le numérique de l'enregistrement et le numérique de la synthèse.
D'accord.
Donc, moi, je m'arrête au moment où le numérique de l'enregistrement rentre dans l'ordinateur. Et à partir de là, le son n'est plus que du 1 et du 0.
C'est du 0, c'est du binaire.
Et donc, les effets sont émulés, etc. Et là, on est vraiment dans une logique, en fait, de transposition numérique de ce qui existait en analogue, et d'imitation. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu déprimant, c'est qu'au tout début du numérique, t'achetais une console de mixage, bon, enfin, d'un autre côté, ça se comprend, t'achetais une console de mixage avec les mêmes potards, les mêmes... Au contraire, plus ça ressemblait à de l'analogue, plus c'était voulu, quoi.
Ouais.
Donc, ça, c'est une autre... C'est à ce moment-là que, justement, la façon dont le son se traite en numérique, une fois qu'il est enregistré, ça, c'est le chapitre d'après, c'est le bouquin.
Le travail in the box.
C'est le bouquin d'après.
Contre ton ordinateur.
Donc, tu t'arrêtes aux ordinateurs, quoi.
Exactement. Quand le son rentre dans l'ordi.
Ouais. Okay. OK.
Ça va nous permettre de... Peut-être une dernière partie de ce podcast. Peut-être aussi en mettant en parallèle les pratiques d'aujourd'hui, effectivement, à travers l'ordinateur. Par exemple, je pense que parmi les grandes inventions dont tu traites, alors, c'est plus la même époque, c'est plus comparable, mais je pense par exemple que l'autotune est un séisme dans l'industrie musicale et que c'est peut-être une des inventions les plus marquantes de ces dernières décennies.
Ouais, c'est marrant aussi, qu'on ne s'en soit pas encore fatigué, mais bon.
C'est-à-dire qu'à la base, c'était fait pour corriger les faussetés.
Oui.
Il se trouve qu'en mettant tous les potards à fond, on crée un nouveau son.
Absolument. Mais c'est comme l'histoire des inventions.
C'est exactement ça.
C'est le détournement qui est intéressant.
Je pensais à l'autotune tout à l'heure, effectivement, parce que finalement, c'est le même travers qui est utilisé.
Oui, avec un antécédent qui était le vocodeur aussi.
Oui, j'y pensais.
C'est les deux.
Il y a Talkbox aussi.
Il y a beaucoup de gens qui confondent d'ailleurs autotune et vocodeur.
Oui, absolument.
Mais tout ça pour en arriver à la fois un regard sur le passé, sur la façon dont on travaille aujourd'hui, et sur justement cette articulation entre l'artistique et le technologique. C'est-à-dire que jusque-là, on voit bien que les musiciens s'emparent des outils, en font quelque chose, et même les plus réacs d'entre nous diront « Ah mais oui, mais c'était encore ouvert à l'époque-là, les musiciens faisaient ce qu'ils... » Alors qu'aujourd'hui, on va nous dire « La technique, c'est aliénant, on se repose trop sur la technique, sur les outils, tout est trop facilité, tout est... »
On parlait de la quantise tout à l'heure, exactement ça.
Tu en parles d'ailleurs un peu.
Parce que dans le livre, donc la quantification, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme un miracle, alors qu'aujourd'hui, on essaie au maximum de s'en détacher pour rendre le truc un peu plus organique, justement.
Exactement.
Donc c'est marrant aussi de voir...
Quel est ton regard sur l'articulation entre la technique et l'artistique? Est-ce que l'une prend parfois trop le pas sur l'autre, à ton avis?
C'est comme tout dans l'univers, hein, c'est des ondes, hein, ça monte et ça descend. c'est drôle parce que moi j'ai vraiment vécu l'analogue, le tout numérique des années 80, les réverbes en salle de bain avec robinet en or. le sampling des années 90, et à partir des années 2000, le début d'un aller-retour entre analogue et digital, et numérique, devrais-je dire. Et donc aujourd'hui, t'enregistres avec des micros numériques, ça rentre dans ta ça rentre dans ta console numérique, puis tu vas traiter le signal avec un préamp un peu fat analogue, et puis ça rentre, et puis on convertit, ça rentre, ça sort. Donc on est vraiment dans un échange très fructueux entre les deux mondes. Après ça, il y a toute une logique industrielle qui a fait que progressivement, dans les magasins de disques, d'instruments de musique, parce qu'avant, on trouvait pas, à l'époque du Minimoog, il devait s'en vendre, 20 ou 30 par an à Paris, quoi, dans les années 70, au début des années 70, c'était quand même un truc très rare. Et c'est le premier vrai synthé qu'on trouvait dans des magasins de musique, parce qu'auparavant, on l'achetait par petits bouts, il fallait l'adresse du gars, puis il fallait attendre, et puis il finissait les soudures, et puis bon. Donc là, on n'imagine pas comment c'est récent le fait de pouvoir trouver des synthés dans un magasin de musique. Et donc progressivement est apparu l'instrument plug and play, quoi. C'est-à-dire que on est dans le magasin, on branche le truc, on appuie sur le preset 1, oh, monstrueux. On preset 2, oh, monstrueux. Et preset 5, on achète le biniou, quoi. Et donc, il y a eu tout un effet d'attirer le chaland qui fait que progressivement, les synthés sont devenus des espèces d'esclaves complets. Alors, progressivement, les gars, ils se sont dit, oui, mais alors, on va proposer cette option. Puis alors, il y a des menus qui ont 20 épaisseurs de profondeur, quoi. Il faut descendre toute une chaîne d'algorithmes pour aller trouver le truc. Et donc, on est allé dans une sorte d'excès d'options, c'est ça, où en fait, on peut absolument tout faire avec tout, qui a, à mon avis, occasionné le retour des fans de modulaire. Du fait que Moog ressorte ces petits modules, et moi j'en ai un chez moi, et qu'est-ce que je kiffe à mettre l'électrique
avec les jacks, ça,
et donc c'est encore une fois, c'est
on revient en fait
avoir trop de choix, en fait ça
tue le choix,
ça tue le choix. Ce qui est une vérité aussi dans l'enregistrement numérique. Moi mon premier album là, Time for Change, j'ai mis un an et demi à le pondre, parce que il y avait tellement de possibilités. Et que quand t'avais des bandes de 2 pouces qui coûtaient $500 la bande et que t'avais un quart d'heure d'enregistrement, t'avais intérêt, tu faisais la bande tout de suite, quoi. Après, ça restait, quoi. Ou alors tu réeffaçais tout. Enfin, il y avait une obligation.
Il y avait des contraintes, quand même.
Exactement.
Ouais. Et à l'inverse, parce que pour équilibrer un peu le débat aussi, je comprends bien qu'on s'oriente vers c'est assez vrai d'ailleurs, je suis d'accord que lorsqu'il y a trop de choix, lorsqu'il y a trop d'options dans une solution, effectivement.
C'est ce que je t'avais dit.
Ça complique au niveau artistique, ça, je suis d'accord.
Ça paralyse.
Mieux vaut avoir des limitations et devoir se débrouiller avec
la contrainte.
Je suis d'accord,
la contrainte. Contourner les contraintes.
C'est marrant parce qu'on en parlait de ça aussi.
Oui, on en parlait ensemble, effectivement.
Pourquoi moi je suis allergique au dos et je préfère une MPC pour faire de la musique, parce qu'il y a un workflow, parce que t'as pas 30 milliards de plugins.
Mais en l'occurrence, c'est trop limité, une MPC. Non, mais ce que je veux dire, là où je veux aller, c'est que oui, effectivement, parfois, trop, c'est trop. Mais pour autant, sur les synthétiseurs, par exemple, est-ce que le fait de pouvoir se concentrer sur des presets pour tout de suite aller vers l'artistique, tout de suite vers la composition, tout de suite vers l'arrangement, c'est pas un atout aussi, plutôt que devoir s'emmerder à absolument créer son son?
Non, mais etc. les presets,
que l'un est meilleur que l'autre. Hein.
Ouais.
Que je dis, c'est que ça marche par vague. Ouais. Quoi. C'est vrai qu'on arrive du coup à Machine and the Queen, Christine and the Queen, qui avait repris carrément une démo d'Ableton, quoi. Ouais. Et qu'on a fait un tube, qui a juste posé sa petite mélodie dessus, puis j'ai le droit, c'est libre de droit.
Et Usher aussi avait fait ça avec des boucles Apple Loops et
voilà, exactement. Ouais. Donc après ça, moi je me souviens très bien de mon indignation au début des années 80 à New York, de voir des espèces de bons à rien de disques jockey, quoi. qui engrangeait la maille, tu vois, en faisant tu vois, qui savait pas ce que c'était qu'un do, qu'une mesure en 4/4, mais qui avait un espèce d'instinct du truc fabuleux qui fait que bien entendu, c'est un art d'être DJ.
Ouais.
Mais à l'époque, j'étais là, genre, mais c'est qui ces mecs qui tuent le métier, quoi? Bah ouais.
Ouais, bah ouais, ouais, ça s'entend, hein.
Et oui.
Bien sûr.
Ah, c'est un métier de passer des disques. Ah ouais, d'accord. Et en plus, tu fais plus que quand tu joues le piano, tu vois. Les mecs, bref. Donc, non, toute modernisation vient au détriment, effectivement, d'une culture ancienne. Bon, ce qui est sympa aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment sympa aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle démocratisation dans l'utilisation de la musique avec des trucs craqués à deux balles, que effectivement, n'importe quelle subjectivité créative peut s'exprimer et ça donne une très très grande diversité de choses. Alors il y a des inventions plus ou moins réussies, mais justement il y a une espèce de morcellement, d'éparpillement de la pensée créative qui, je trouve, est vachement appétissant, qui est encore une fois peut-être décourageante, et c'est pour ça qu'on trouve peut-être moins de directeurs artistiques dans les labels ou dans ceux qui restent.
Est-ce qu'après, je suis d'accord avec toi, mais il faut distinguer aussi les gens qui font de la musique pour éventuellement en vivre et la mettre à disposition des autres, puis ceux qui font de la musique à la maison, et ce qui est quand même l'essentiel des gens qui font de la musique. Et en l'occurrence, pour ces gens-là, d'avoir cette facilité d'accès, c'est incroyable que d'un point de vue loisir, épanouissement personnel, on puisse mettre à disposition de tout le monde.
Sans avoir à se taper
et qu'ils puissent se faire plaisir.
Les 50 solfèges et tout ça.
Du bien, etc. Et pour moi, dans l'équilibre, là, dans la balance, ça emporte tout. Par rapport, oui, effectivement, il y a trop de disques qui sortent aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est difficile. Quand t'es musicien, dans la jungle,
tu parles de disques, c'est déjà
trop de morceaux.
Exactement, il y a trop de bordel sur YouTube. En fait.
Et évidemment, et c'est difficile pour les artistes qui souhaitent en bouffer parce que t'es noyé dans tout ça, c'est compliqué. Mais en parallèle, que chacun puisse s'épanouir en faisant de la
musique. Absolument, c'est magnifique. C'est magnifique. Après ça, moi, je demande à voir ce que ça, parce que tout ça est impliqué, imbriqué, bien sûr. Il y a la créativité, mais il y a le business aussi. Bon, quand on voit les revenus générés par la diffusion numérique, c'est-à-dire que, on va bientôt plus pouvoir enregistrer de la musique en studio, c'est-à-dire que tout va se faire gratos, c'est-à-dire dans l'ordi, avec les micros, etc. Donc, il y aura plus comme ça qu'on va pouvoir faire de la musique, mais quand même des disques de musique classique, des disques de jazz acoustique, des trucs un peu voilà. Mais ça va plus être possible.
Tu peux plus
vendre les disques pour amortir.
C'est de plus en plus difficile, mais.
Mais en fait, c'est le modèle économique change.
Exactement, mais
d'autres sources de revenus.
Il faut que la façon de fabriquer la musique soit gratuite aussi, puisqu'elle est quasiment gratuite à disposition. Sur Spotify, t'es 10 balles d'abonnement, il y a 40 centimes qui vont aux artistes.
Ouais.
Tout le reste, c'est pour le reste.
Pour l'intermédiaire. Ouais.
Voilà. Et le contenu, le vrai truc qui est vendu, en fait, il vaut 40 centimes sur 10 euros.
Ouais.
Après, on pourrait dire aussi que le vrai truc qui est vendu, c'est la prestation live, par exemple, que c'est un art vivant aussi. Et là, par contre, il y a aussi possibilité de faire un peu d'argent.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, le modèle économique fait que les musiciens doivent défendre leur musique sur scène.
C'est devenu une des.
On peut plus être musicien de studio, en fait.
Eh oui, mais enfin, défendre sur scène. Comment tu défends sur scène? Bah, c'est un programmateur qui te programme. Comment ton programmateur il te choisit? Eh ben, en fonction des sorties.
Complètement.
Pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste qui a dit où est le dernier disque de machin, etc. Enfin bref, tout ça, ça se mord la queue et ça fait une espèce de microcosme qui est un peu sous perfusion de nos jours.
Mm-hmm. La précarité, ça c'est certain.
Ah ouais, ouais. Et puis l'économie numérique va vraiment complètement redéfinir la façon dont
l'économie numérique peut créer aussi des opportunités et de la ressource financière. Le problème, c'est que ça va pas dans ce sens-là. Mais potentiellement, l'argent est généré. Il y a du fric.
Oui, mais la seule chose qui me gêne dans ce système, c'est qu'en fait, tu as quelques gros vendeurs, mais justement, cette diversité dont on parlait, elle est pas viable économiquement. Donc elle existe toujours dans la créativité des musiciens du samedi après-midi et dimanche matin réunis, ce qui fait des trucs d'excellente qualité, et éventuellement quand ça marche bien pour que le gars, bon, il lâche son job et puis finalement il se lance, mais pour combien de temps? Ceci dit, c'était pas mieux avant, hein. La longévité des artistes
de carrière,
en moyenne elle est très courte. C'est les grands qui durent toute la vie, quoi. Mais je trouve que le numérique accentue cet effet de ciseau entre les trucs qui marchent très très bien et qui ramassent plein de pognon et les trucs qui marchent pas du tout et qui ramassent rien.
Ça c'est vrai, mais c'est un truc, on a fait un épisode là-dessus avec Sofian Fanen qui maîtrise assez bien ces sujets. Et justement, lui, il voyait aussi comme... alors, c'est le premier à pointer du doigt les problématiques de différence, de traitement, etc., du fait qu'il y a du pognon qui est créé, mais qu'il n'est absolument pas ensuite distribué de manière équitable, etc. Pour autant que c'est un modèle en perpétuelle évolution, qui est encore extrêmement récent en réalité. Alors, il ne faut pas uniquement faire confiance aux acteurs de ce milieu-là pour se dire ils vont être pour plus de justice. Mais en tout cas, il y a un potentiel, une capacité aussi à répartir plus d'argent. Et en tout cas, c'est une industrie qui peut générer de l'argent, oui. et permettre à des gens d'en vivre.
Mais qui nécessite une régulation.
Ah, ça, je suis d'accord.
Mais une régulation qui ne va pas provenir des acteurs, de l'univers de la consommation, quoi. Parce qu'effectivement, ça tire tout vers le bas, quoi. Mm-hmm. Donc c'est au niveau européen, au niveau national. Je vais pas parler de trucs embêtants, mais il y a des accords pour défendre les artistes-interprètes. Il y a des accords qui font que tous les pays signataires du traité de Rome de 1954 collectent de l'argent pour les artistes-interprètes lorsqu'on les entend à la radio, les voit à la télé et les redistribue aux ayants droit. C'est magnifique. Ça a été sanctuarisé par la loi Langue de 84 avec la rémunération sur la copie privée. Chaque disque, chaque support gravable achète en fait à l'avance le droit de copier autant qu'il veut, mmh. une fois pour toutes. Bon, tout ça, ça repart dans le milieu culturel, ça finance des projets d'artistes.
Ça reste de la perfusion, en fait. Comme,
Exactement, ouais. C'est un office régulateur, mmh. qui est essentiel pour la continuité du système.
Ouais. Récemment, par exemple, il y a eu un grand changement.
Et c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne il y a 2 ans, qui disait les États-Unis, qui ne sont pas signataires du traité de Rome, en fait, ont droit à percevoir les royalties pour les artistes-interprètes. Même si eux, ils ne nous en donnent pas. Ils ne sont pas signataires des artistes. Et en fait, c'était sur un tout petit point de droit en Irlande qui avait rien à voir avec ça. Mais la conséquence, c'était que, pour parler de société d'artistes-interprètes Adami Spedidam, c'est un manque à gagner, pour la Spedidam, je sais pas, mais pour l'Adami, c'est un manque à gagner à peu près de 5 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est un tiers de l'argent qu'ils insufflent dans la vie culturelle, quoi. C'est-à-dire sous forme d'aide aux projets, aux festivals, etc. C'est énorme, et ça fait 2 ans que on est obligé de mettre de côté comme ça 5 ou 6 millions par an. Mais en même temps, depuis récemment, ont été négociés
les minimums. Enfin, c'est ça que je pensais quand je disais un grand.
La garantie de revenu minimal. C'est-à-dire que un producteur maintenant, quand il sort un titre sur Internet, il faut qu'il ait payé les artistes-interprètes un minimum.
Il y a un minimum qui vient d'être instauré. Voilà. Ce qui est inédit jusque-là. Oui,
absolument, et c'est une magnifique victoire. Absolument. On avance un peu. C'est-à-dire qu'il y a toute la problématique, par exemple, des reconditionnés. Donc, quand on achète un téléphone, effectivement, on paye dans le prix du téléphone une redevance pour la copie privée. C'est-à-dire, on achète le droit d'enregistrer ce qu'on veut sur son téléphone et de l'écouter à merci, et puis de le mettre à une fête le soir avec des potes. C'est vrai qu'on utilise la musique de quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, les reconditionneurs, des gens comme Back Market, qui se donne une image écolo, mais en fait, font fabriquer en Chine et ça vient par bateau. Bref, disent, nous, on ne veut pas
payer deux
on
fois.
On ne peut pas payer la copie privée puisque c'est reconditionné, puisque la copie privée a déjà été payée. Oui, mais la copie privée, elle est payée par un utilisateur, pas par un appareil. Donc, c'est l'utilisateur qui achète le droit de graver, tu vois. Et donc, tu as toute cette... même à l'intérieur du gouvernement, il y avait deux
écoles qui...
Tous les numériques, ils disaient, allez, on en a marre de toutes ces taxes. Mmh. C'est pas une taxe, mais c'est... Ouais, allez, on baisse les prix, c'est trop cher, blablabla, le consommateur d'abord, l'inflation, il faut qu'il en ait pour son pognon. Donc, allez, on vire ça. Et ça, c'est les mecs de Bercy qui disent ça. Et au ministère de la Culture, ils disent, mais les gars, vous vous rendez compte, là, si ça disparaît... C'est carrément, il n'y a plus de festival, il n'y a plus de rock en scène, il n'y a plus de vieilles charrues, il n'y a plus de...
Ah, vraiment, la part qui est acquittée sur la taxe pour la copie privée, c'est à ce point important.
C'est une redevance, c'est pas une taxe.
Oui, la redevance, pardon. C'est vrai que en tant que consommateur, oui, moi, sûr, je me dis oui, ah, à chaque fois que j'achète un truc,
exactement, je suis taxé, voilà. Ouais. Et donc il c'est pour ça que c'est un sujet qui est très intéressant, épineux, très technique, assez rébarbatif, parce qu'effectivement là on rentre dans des histoires de subventions, de redevances, de taxes, de tout, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps c'est vrai que c'est l'avenir,
c'est vital, ouais,
du métier qui se joue, quoi. Ouais. Là-dedans aussi, il faut faire attention, et ça avance un coup à droite, un coup à gauche, comme toujours dans l'histoire humaine, et il faut pas que ça penche trop d'un côté. Et là, voilà, on a récemment eu une espèce de petite victoire pour les artistes interprètes. Mais enfin bon, pas faire le vieux syndicaliste.
Alors j'aurais quand même une question, un peu de prospective, parce que là on était sur la pointe un peu business. Moi je reviens sur la partie artistique. Est-ce que toi tu penses, en termes d'innovation technologique, on a vu que finalement le synthétiseur c'est là depuis très très longtemps, c'est quoi pour toi la prochaine étape? Est-ce que tu as déjà essayé de conceptualiser un petit peu la prochaine grande avancée qui pourrait nous tomber dessus et qui pourrait redistribuer les cartes?
Intéressant.
Écoute, c'est
dans le bouquin.
C'est la réflexion que j'ouvre à la fin de mon bouquin. C'est-à-dire que, donc, analogique. On tourne des boutons, voilà, on fait le son, voilà, on a des pédales. Voilà. Ce qui est encore ce que je vois partout aujourd'hui. Oui. Hein. Numérique, tout dans l'ordi, un clavier, une souris. Mm-hmm. Bon. Donc, l'ordi, c'est effectivement l'avenir, le traitement du son, la puissance de traitement.
Le calcul, ça, ouais.
Donc, pour l'instant, on n'a pas encore inventé de contrôleur. C'est-à-dire que le problème, c'est que clavier et souris, c'est nul.
Beaucoup de contrôleurs aujourd'hui.
Ouais,
d'une part, des claviers.
C'est un truc qui existe déjà.
Des claviers.
Ce que fait un push, par exemple, sur Ableton.
Alors,
c'est quand même fou, le push.
Mais le pad, c'est le pad.
C'est pas que le pad.
C'est vieux comme la TR-808.
Le pad en lui-même, oui, mais le dialogue qu'il y a entre le séquenceur et la machine, et ce que tu peux faire sur la machine, c'est un contrôleur assez incroyable.
Absolument. Mais alors, qu'est-ce que t'as comme contrôleur? Clavier. Curseur.
Potard.
Pad. Potard.
Oui, c'est vrai.
C'est les quatre.
Okay. Ouais.
Et alors, moi, ça me fait toujours marrer. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, un DJ qui fait pas.
Alors pour ceux qui nous écoutent, limite le DJ.
C'était même plus
animé.
C'était même plus une imitation. C'était niveau documentaire.
Venez nous voir sur YouTube. Vous verrez.
Si c'est pas ça, t'es pas un DJ, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, pour moi, le grand contrôleur universel est encore attendu. C'est très compliqué comme problématique, parce que ça met y a plein de choses hyper intéressantes qui existent, mais il faut que industriellement ce soit consommé pendant au moins une génération pour que ça s'installe.
Ouais. Et tu vois quoi, un retour au Térémine, on ferait des trucs avec des mouvements.
Mais genre, j'ai un exemple, moi, dans ce style-là, qui n'est pas imposé, mais qui, en tant que telle révolution, il me semble, c'est le cyborg, c'est ça? En fait, je confonds parfois, c'est Rolly qui fait ça ou pas? Je confonds plusieurs.
Ah, le cyborg! Ah oui.
Oui,
j'avais compris. Tu parles
du
cyborg.
Du truc MPE?
Oui, c'est ça, c'est le protocole, c'est le MPE, c'est ça? Et en fait, le principe, c'est que tu as un clavier, et qui, en plus, te permet de prolonger tes mouvements, qui est sensible. En fait, tu rajoutes des paramètres
de
modulation.
Sur la touche
continuum, etc. Mais oui, bien sûr.
Et en fait, ça réinvente complètement le clavier. Et comment tu l'utilises?
Ah, le Rolly, ouais, c'était ça, le...
Ouais,
c'est le
Rolly, ouais.
Oui, c'en est un. Pascal Joguet qui fait le jouet aussi, c'est formidable. Ça, c'est un instrument...
Mais ça va moins loin, quand même, que le truc de Rolly, qui est quand même assez hallucinant.
Bon, la liste est longue. Mais là, encore une fois, on
reste une déclinaison d'un clavier.
Exactement.
Ouais. Non, mais ça va beaucoup plus loin qu'un clavier.
Tu rajoutes une dimension, mais je veux dire, l'appareil en lui-même.
Ouais, mais tu pars jamais de zéro.
Si,
pars de zéro.
Je pense que. Il y a des gars qui ont inventé cette espèce d'accordéon électronique aussi. Ça marche vachement bien. C'est très. C'est très bonne invention. Je pense que. On n'a pas encore été au bout de l'interface homme-machine. Et qu'il faut trouver une façon un peu plus naturelle, parce que c'est vrai que quand tu joues du violon, une vraie corde sur une vraie touche, tu vois, et que tu vas taper ta justesse vraiment comme toi tu l'entends, c'est quelque chose qui est atteignable. Et bien sûr, on peut faire des violons électroniques, quoi. Mais on n'a pas encore trouvé l'interface qui convient vraiment à cette machine. Mmh. On en est encore à la prolongation des vieux modèles. Je ne sais pas lequel il sera. Et le truc, c'est qu'il faut que le gars qui en joue, il en joue pendant 20 ans et qu'il ait ses affiches dans la chambre des mômes de la génération d'après.
Pour inspirer... Disent,
moi, je veux faire comme ça. Exactement. Et là, on est parti, quoi.
Ouais. Dernière question. Tu parlais des presets en disant qu'à un moment donné, on s'était perdu dans des presets à l'infini avec des menus, des sous-menus, etc. Mais moi, dans le même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une uniformisation du son où tout le monde utilise la même 808, tout le monde utilise les mêmes kits de plugins de FL Studio ou d'Ableton.
C'est des modes.
Ouais.
Oui.
C'est des modes. Ouais, ça, je suis pas inquiet. C'est des sons.
Ouais.
Les machines sont souvent en capacité de faire plus, en fait. Ouais. C'est juste qu'on veut que ça en ce moment.
Tu sais, le repeat. Voilà, bon. Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'on entend ça.
Un petit peu plus, mais oui.
Non, mais je veux dire, dans les musiques de films et tout ça, tu vois. Bon, on va s'en fatiguer. J'aimerais bien qu'on se fatigue de l'autotune, parce que, tu vois... C'est fun, mais enfin bon, il y a un moment, il faut passer à autre chose, quoi.
Oui, moi, je suis d'accord.
Mais pour ça, je suis pas inquiet. C'est des modes.
Pour toi, c'est des modes...
La TR-808...
Le retour à la 808, ouais, parce qu'à un moment donné, ça avait disparu, et puis d'un seul coup...
Oui, puis 808, tout le monde trouve ça formidable.
Et ça y est, on commence à s'en fatiguer.
Quand on l'aura bien entendu, tu sais, le break amen, moi, je l'entends remis au goût du jour. On l'a rincé, mais vraiment rincé dans les années 90. Mais là, tu pouvais voir à travers tellement il était usé, quoi. Et ben, ça revient, et puis ça repartira. Et puis, oh, c'est un vieil amen et tout. Ah non, tu vas pas jouer ce truc. Oh, la 808, la Neo 808, on l'a trop entendu. Non, c'est des modes.
C'est des modes.
Ça passe.
Okay. Yeah. C'est d'accord. Non, c'est bien. Formidable message d'espoir. Ouais.
La mode, ça continue toujours. J'ai une copine qui m'a dit, mais oui, bien sûr, regarde les chaussures. Et là, j'ai compris, quoi. C'est-à-dire, la mode de la chaussure est une mode inépuisable. Et pourtant, c'est une fonction qui est vraiment toute simple. Ouais. C'est protéger des cailloux et des épines par terre, quoi. Ouais. Et on arrive encore à décliner le sujet, avec des trucs complètement has-been et des trucs hyper branchants, alors qu'on est vraiment sur la même fonctionnalité quoi. Ah, ouais. Donc ça va, il y a de l'espoir.
C'est ça qui est beau aussi, c'est l'inventivité, la richesse, le mélange machin.
Mais ouais.
Est-ce que, pour terminer, on se ferait pas une dernière petite anecdote, un personnage dont on n'a pas parlé, ou un élément de sa vie, toi, que tu trouves génial, ou un personnage qui t'a marqué, ou une machine?
Moi, il y a un gars qui m'éclate, c'est Raymond Scott.
Okay.
Raymond Scott, c'est un inventeur très peu connu, qui a été, comme Theremin, d'une très grande influence sur le travail de Moog. Mais Moog, il a connu Raymond Scott, il a bossé pour lui, il a réparé des machines à lui. Raymond Scott est le premier à inventer, et là encore une fois, on a du mal à imaginer que ça n'a pas existé depuis la nuit des temps, il a inventé la boucle.
Okay.
La boucle, et pas l'échantillon, la boucle, c'est-à-dire une sorte de, comme une aiguille d'horloge qui tourne, et au lieu de chaque heure, il y a un capteur optique qui, lorsque le bras de l'horloge passe devant, joue une note.
Okay.
Et donc, tu as tes 12 capteurs avec ton truc qui tourne, et tu définis chaque note, voilà, et tu fais juste tourner l'horloge, quoi. Et ça fait... Et là, c'est le début de la musique répétitive, quoi. Et le début de la boucle qui rentre dans la tête des gens. Avant, ça n'existait pas.
Il fallait faire soi-même.
Ben oui, ouais. Et encore, si tu la faisais toi,
on avait marre.
Tout de suite, c'est chiant ton truc, c'est toujours la même chose.
Dans la musique classique, l'ostinato, c'est un peu ce principe quand même, non?
Ça change toujours.
Ouais.
Ça change toujours. Après ça, t'as tout. C'est-à-dire, ça s'est greffé en même temps sur toutes les musiques des autres coins du globe, qui sont des musiques de trance, effectivement répétitives, avec un petit peu de variation, mais où effectivement, c'est clair qu'en musique africaine, mais en musique indienne, par exemple, la variation est de rigueur, quoi. Mais t'as quand même cette histoire de répétition, mais justement, en musique occidentale, ça ne se répétait jamais. Mmh. Ou juste suffisant pour que la mélodie te reste en tête, mais certainement pas l'idée de boucle. Et Raymond Scott, lui, il est un des premiers à tomber dans la boucle et à l'imposer dans la tête des gens. Et puis maintenant, mais
on fait que ça.
Tout n'est que boucle, quoi.
Passionnant.
Raymond Scott.
Pour plein d'autres histoires, dans Les Fous du Son, de Laurent de Wilde. Et je fais bien la promo,
ouais, franchement, bien. Hein, c'est de mieux en mieux. À chaque fois que tu montrais le livre, ouais. Là, on progresse. Hein.
Bon, merci beaucoup, Laurent, d'être venu nous.
Yeah,
c'était super cool.
Vous.
C'était très intéressant.
Content de poser dans le poste.
Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Qu'est-ce que ce soit sur Internet, ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles pour te découvrir un peu plus?
Acheter mon bouquin, aller sur mon site laurentdewilde.com. Mon fils m'a dit, papa, tu te prends pas compte, mais il est tellement has-been ton site, donc je suis en train de...
C'est vrai qu'il va avoir un Insta, un truc comme ça.
Mais non, mais ça va revenir.
J'ai un Insta, LDW officiel, aller sur mon Facebook, il se passe plein de trucs. Et puis, en principe, d'ici la fin de l'année, là, nouveau site. À mon avis, un peu moins sympa. Je l'avais designé, mais à peine 7 ou 8 ans. C'était l'intérieur d'un piano avec des fusées qui sortaient, puis des motos qui faisaient des galipettes et tout ça. Mais là, c'est plus du tout au goût du jour. Il faut être cadré.
Tu devrais le garder.
Voilà, exactement. Ouais.
Et attendre la boucle.
T'as raison. Ouais.
Et puis sinon, on te retrouve, tu tournes régulièrement pour faire de la musique, des concerts.
Absolument.
Sur Radio Classique, tu reviens à la rentrée aussi, ton émission tous les soirs.
Du jazz de 19 à 20h, On the Wild Side, du lundi au vendredi.
Parfait. Daz. Merci aussi d'être venu.
Toujours un plaisir. Fidèle au poste.
Où est-ce qu'on te retrouve?
Sur Internet.
Il est partout.
Je suis partout. Partout et nulle part à la fois, et c'est la force des grands anciens. Non, Insta, Twitter, comme d'hab, Twitch. Cherchez, vous trouverez.
Et puis, moi, pareil, un peu partout. En podcast, si vous regardez les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas, on sait que c'est long. N'hésitez pas à le mettre en podcast sur vos transports, sur les trajets, etc. C'est pratique. À l'inverse, si vous écoutez un podcast, venez voir notre tête aussi de temps en temps.
Sympa.
Ça peut être pas mal.
Et puis en plus, ça permet de voir l'interprétation du DJ.
Non, rien que pour cet épisode,
il faut venir.
Absolument. Merci la bouclette et Thomas aussi, évidemment.
Ciao.